Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Depuis le dimanche des Rameaux, on vous invite, chers fidèles, on vous presse même de faire vos Pâques, c'est-à-dire de faire votre communion pascale. Mais en fait, d'où vient ce devoir et pourquoi cette obligation tombe dans le temps pascal? Voilà les deux questions que nous allons traiter. D'abord un peu d'histoire pour comprendre l'origine du devoir pascal. Dans le premier siècle, l'usage des chrétiens est de communier tous les jours, ou du moins toutes les fois qu'ils assistent au Saint-Sacrifice. Puis, avec le temps, la ferveur des fidèles se ralentit et on insiste sur la communion au moins aux trois fêtes principales, à Noël, à Pâques et à la Pentecôte, un strict minimum. Ensuite, au Moyen Âge, la plupart des chrétiens deviennent si indifférents qu'ils passent des années sans aller à la Sainte Table. C'est alors que le Concile de Latran, en 1215, ordonne que tout catholique parvenu à l'âge de la raison communie au moins une fois par an au temps pascal, un extraordinaire strict minimum, sous peine de péché grave. Le Code de droit canon de 1917 précise de quel temps il s'agit. C'est depuis le dimanche des Rameaux jusqu'au premier dimanche après Pâques. Et même au-delà, car l'ordinaire du lieu peut, dit le Code, allonger ce temps jusqu'au dimanche de la Trinité. Et c'est cela maintenant la coutume générale. Et si, par faute de notre part, on ne faisait pas cette communion, on pécherait gravement, mais on resterait tout tenu de communier avant la fin de l'année. Maintenant, nous savons d'où vient ce devoir pascal, mais nous ne savons pas toujours pourquoi. Pourquoi on privilégie la fête de Pâques plutôt que Noël, la Pentecôte ou bien la fête de Dieu? Pourquoi pas? D'où vient donc ce choix? La toute première réponse qui nous viendrait à l'esprit serait celle tirée de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, de sa promesse. La voici. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, c'est-à-dire celui qui communie, a la vie éternelle. Et moi, et voici le point qui nous intéresse, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Voilà le lien que notre Seigneur lui-même fait entre la réception de l'Eucharistie et la résurrection de notre corps avant le jugement dernier. Celle-là est le gage de celle-ci. D'après les docteurs de l'Église, la Sainte Communion communique au corps de l'homme une telle noblesse, une si haute dignité, qu'il suffit d'avoir reçu une fois seulement cette chair divine pour avoir l'assurance de la résurrection glorieuse de la chair. Saint Ignace d'Antioche, par exemple, dit que la fraction du pain, c'est-à-dire l'Eucharistie, est un remède d'immortalité, un antidote contre la mort pour la vie éternelle dans le Christ. Et le pape Léon XIII affirme que l'hostie sainte dépose en notre chair un levain d'immortalité. Comment donc, résume Saint Jean Chrysostome, pourrait mourir celui qui se nourrit de la vie même? Oui, cela concerne la résurrection de notre corps, juste avant le jugement dernier. Et notre âme n'a-t-elle pas besoin de résurrection en cette vie? N'a-t-elle pas besoin de ressusciter spirituellement? Qu'est-ce que donc cette résurrection spirituelle? Et surtout, comment la communion l'opère et l'entretient? La résurrection spirituelle consiste à passer de l'état de péché à l'état de grâce, c'est-à-dire de la mort de l'âme à la vie de la grâce, mais aussi de l'état de tiédeur et d'imperfection à celui de ferveur et de perfection. C'est le péché mortel qui blesse mortellement une âme. Et le seul moyen de la faire passer à la vie, de la ressusciter, est le sacrement de pénitence. La communion n'enlève pas le péché mortel, ce n'est pas son rôle. Par contre, elle efface le péché véniel. La communion est un feu, feu qui détruit la paille et le bois, symbole du péché véniel, mais non la pierre et le fer, symbole du péché mortel. Non seulement la communion purifie l'âme du péché véniel, mais surtout elle en préserve, aussi bien du péché véniel que du mortel. Elle aide à n'en pas commettre. Du péché mortel, surtout. Celui qui mange ma chair, promet notre Seigneur, ne mourra pas. Saint Thomas d'Aquin commente ce passage en disant que cette parole doit s'entendre non de la mort corporelle, mais il suffit seulement de visiter un cimetière catholique, mais de la mort spirituelle. C'est donc de cette mort spirituelle causée par le péché mortel que ce sacrement préserve. Celui donc qui communie rarement tombera facilement dans le péché mortel. Mais s'il communie souvent et avec ferveur, il persévérera plus facilement dans la grâce, dans la vie même de Dieu en son âme. Résurrection spirituelle, c'est donc passer de la mort à la vie de l'âme, du péché à la grâce. C'est aussi un changement de vie, de la vie ancienne à la vie nouvelle. Là où avant s'installa la lâcheté, la négligence, la tiédeur, la Sainte Eucharistie devient principe de fidélité, de générosité et de ferveur. Pain d'effort qui rend fort, merveilleux tonique des âmes, l'Eucharistie donne à qui s'en nourrit souvent et avec ferveur, des forces pour résister aux tentations et pratiquer la vertu. C'est pourquoi la Sainte Communion nous est nécessaire, particulièrement aux périodes ou circonstances difficiles et dangereuses de la vie, en temps de persécution, par exemple. Lorsque les occasions de péché deviennent plus fréquentes et plus attirantes, il faut alors un régime de suralimentation spirituelle pour tenir. Et l'Eucharistie change en lion ceux qui auparavant étaient timides comme des souris. Souvenons-nous que les premiers chrétiens, exposés à tant de persécutions, puisaient dans la Sainte Communion le courage de braver la mort du martyr. Terminons, chers fidèles, par un aspect pratique, une double disposition avec laquelle nous devrions accueillir Jésus-Christ, Jésus hostie, dans notre âme. Premièrement, la foi. La foi, le fruit qu'on demande dans le premier mystère glorieux. La foi qui nous aide à considérer qui est celui que nous allons recevoir. Plus la réalité est loin de ce que perçoivent nos sens, notre œil ne voit qu'un objet blanc et rond, notre langue ne goûte que du pain azim, plus nous devons faire effort pour la saisir par la foi. Si la foi ne m'en donne l'assurance, qui pourrait jamais croire que Dieu veuille devenir la nourriture d'une de ses créatures? La Sainte Eucharistie est avant tout un mystère de foi, mysterium fidei. La foi, c'est la disposition primordiale à la communion, celle qui engendre toutes les autres. En effet, on ne désire bien que ce que l'on connaît. Jamais je ne désirerai manger des framboises sans savoir avant qu'elles existent et qu'elles ont un goût magnifique. Si nous savons, et cela est possible uniquement par la foi, ce que l'Eucharistie renferme et quel trésor de grâce elle nous réserve, nous aurons une faim ardente de la recevoir. Plus notre foi sera vive, plus nous connaîtrons les raisons par lesquelles notre Seigneur a voulu se cacher dans une hostie. Pour être le plus proche de nous, être notre meilleur ami, notre nourriture, notre médicament, le germe de notre résurrection, présente et future, pour nous transformer en lui, à la fois crucifié et ressuscité, est ainsi plus notre attitude pour communier sera humble, respectueuse et aimante. Après la foi, la deuxième disposition avec laquelle nous devrions recevoir notre Seigneur, c'est le silence. Le silence. Les tout premiers instants après la communion sont les instants les plus précieux pour parler avec Jésus-Christ, les plus importants peut-être de la vie spirituelle. Les auteurs spirituels recommandent plutôt de ne pas se servir du livre, du moins dans les premiers instants qui suivent la réception du corps de notre Seigneur. S'il y a dans notre vie des moments où la grâce est plus abondante que jamais, c'est le temps que Jésus-Christ demeure dans notre corps. « Je n'aime pas, » disait saint curé d'Ars, « quand on vient de la Sainte Table, qu'on se mette tout de suite à lire. À quoi bon les paroles des hommes, quand c'est Dieu qui parle. Il n'est pas besoin de beaucoup de paroles, ni même de beaucoup de pensées. Il suffit de répondre à l'amour par l'amour. L'amour vrai n'a rien de sensible. Il suffit qu'il soit sincère, qu'il parte du cœur. Accueillons donc, chers fidèles, dans quelques instants, notre Seigneur ressuscité, caché dans la blanche hostie, comme l'a reçu autrefois sa Sainte Mère. C'est à elle que Jésus est apparu en premier. Elle l'a accueilli avec foi, foi solide, foi ferme. Elle seule garda la foi, tandis que chez les apôtres, elle a presque disparu. Avec foi et silence. Que notre Reine du ciel nous y aide, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.